Bonjour à tous, à toutes. J'ai réveillé quelques-uns ce matin. J'espère que vous allez bien. Je voudrais qu'on parle ce matin d'un sujet que vous connaissez bien et que tous les croyants connaissent bien. On va parler de la croix ce matin. La croix qui est une folie, un scandale, ou une puissance. Ces trois attitudes possibles face à la croix, et je prie pour que ce matin tu puisses réaliser la puissance de la croix dans ta vie, parce que la croix a le pouvoir de transformer ta vie. On va faire une lecture dans l'épître, la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 18. 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Du reste, il est écrit, « Je ferai disparaître la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le discoureur de l'ère actuelle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque, à travers cette sagesse, le monde n'a pas connu Dieu en voyant sa sagesse. Il a plu à Dieu de sauver les croyants au travers de la folie de la prédication. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Les Grecs recherchent la sagesse. Or nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient Juifs ou non. Amen. L'essence même du christianisme repose sur un fait historique, la mort d'un homme sur une croix, qui plus est, un innocent. Pour les uns, cet événement n'a pas eu lieu. Certains contestent la véracité de ce fait. Pour d'autres, c'est un non-sens absolu. Pour d'autres encore, c'est encore un scandale. Mais pour tous ceux qui croient dans la réalité de ce fait, c'est quelque chose qui bouleverse et qui transforme la vie. C'est une puissance redoutable, c'est un fondement inébranlable, c'est une assurance absolue, c'est une certitude inamovible qui est basée dans la vie de celles et ceux qui croient et qui les conduit à bon port. Comment expliquer qu'un même fait, la mort d'un innocent sur une croix, soit pour les uns un scandale, pour les autres de la complète folie, mais pour tous ceux qui croient, une puissance? Comment expliquer que la même parole produit chez les uns du rejet, chez les autres du scepticisme, mais chez nous qui croyons, la vie en abondance? Dans le passage que l'on vient de lire dans l'épître de Corinthiens, on voit trois personnes, trois types de personnes. On a les Juifs, on a les Grecs et on a les croyants. Et en fait, ces trois types de personnes sont confrontées à la même réalité, la mort d'un homme sur une croix. Et en fait, ces trois types de personnes représentent, pour nous aujourd'hui, trois façons de considérer la croix. Le Juif représente le religieux. Celui qui veut atteindre Dieu par ses efforts, celui qui veut obéir à des règles, à des traditions, qui veut faire des efforts pour pouvoir s'améliorer et si possible atteindre Dieu. Le grec représente celui qui réfléchit, qui veut des preuves tangibles, une argumentation claire, une démonstration, un raisonnement logique qui lui permet de conclure sans discuter que c'est vrai. Et le croyant représente celui qui croit et qui accepte la grâce qui découle de la croix, et qui en fait le fondement de sa vie. C'est ce dont nous allons parler ce matin ensemble. On va examiner ces trois types de personnes, ces trois types d'attitudes qui nous permettent d'avancer ensemble. Parce que derrière un fait historique, il y a une réalité spirituelle bien plus profonde et bien plus puissante que ce que l'on pense habituellement. Parce que, à partir de la croix, c'est le point de départ d'une vie transformée, d'une vie libérée, d'une vie où les maladies sont guéries. Amen. Et la puissance de Dieu s'est manifestée à la croix. Alors on va regarder ça ensemble, si vous le voulez bien, le scandale de la croix. Et c'est ce que l'on voit au verset 23. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le contexte de l'époque, Jésus est confronté à des religieux qui sont très, très attachés à leur tradition. Et Jésus vient bouleverser, vient percuter complètement leur façon de concevoir Dieu. Il enseigne une nouvelle façon d'être en règle avec Dieu. Jésus enseigne aux foules que Dieu est un père, qu'il prend soin de ses enfants, qu'il accueille le fils prodigue, celui qui s'est éloigné de lui, les bras ouverts, qu'il rend la vue aux aveugles, qu'il pardonne les péchés, qu'il guérit les malades. Jésus n'a pas fait l'unanimité. Il y avait les partisans et il y avait les opposants de Jésus. Et parmi les opposants, il y avait les juifs, il y avait les religieux, il y avait ceux qui considéraient que son message était une hérésie. Certains se laissaient convaincre en écoutant ce que Jésus disait, en voyant les miracles qu'il accomplissait, mais d'autres étaient en réalité jaloux. En fait, Jésus a vécu sur terre ce que j'appelle la loi de la popularité, la curiosité, puis ensuite la popularité, puis ensuite le doute, la critique, la persécution. Et souvent, ça arrive au départ, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? De l'eau changée en vin au mariage, tiens, c'est étonnant. Et puis ensuite, il y a eu toute une phase d'ascension, de popularité, jusqu'à ce que, au bout d'un moment, la persécution qui aboutira au sacrifice de Jésus à la croix vienne être la fin apparente de son ministère. À l'époque de Jésus, le contexte religieux, c'est le respect de la loi de Moïse. Et les Juifs attendent le Messie. Ils attendent le Sauveur d'Israël. Pour les Juifs, le Messie doit diriger Israël comme David l'a fait. Et c'est conforme à ce que dit la parole de Dieu. Les Juifs cherchent sincèrement à s'approcher de Dieu et à être justes devant lui, parce qu'ils savent, parce qu'ils ont lu la parole de Dieu, et ils savent que dans la parole de Dieu, il y a des bénédictions attachées à celles et ceux qui sont déclarés justes. Ils veulent suivre à la lettre les enseignements de Moïse pour pouvoir être considérés comme justes aux yeux de Dieu. Et ils ne ménagent pas leurs efforts, ne ménagent pas les privations pour atteindre par eux-mêmes cette vie qu'ils souhaitent vivre. Ils croient dur comme fer à la parole de Dieu. Ils cherchent à l'appliquer dans tous les détails. Ils prennent soin de l'extérieur. Ils veulent que les autres voient qu'ils sont pieux, qu'ils sont religieux, qu'ils mettent en pratique les traditions. Et Jésus va d'ailleurs leur reprocher ouvertement en leur disant qu'ils prennent soin de l'extérieur, mais ils négligent l'intérieur. Dans Romains, au chapitre 10 et au verset 1, il nous est dit que les Juifs sont zélés pour Dieu. Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Ils ne sont donc pas soumis à la justice de Dieu. En fait, l'enseignement de Jésus va les intéresser jusqu'à un certain point. Parce que quand même, objectivement, cet homme-là, il est quand même étonnant. Il parle avec autorité, il réalise des miracles, il fait quelque chose qui les interpelle. Mais en fait, ça va heurter leur croyance profonde, jusqu'à ce que ça les amène à chercher à le faire mourir. Alors, quand Jésus va dire qu'il faut que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, souffre, il va provoquer un scandale. Parce que pour eux, c'est complètement contraire à ce qu'ils conçoivent de ce que Jésus, de ce que le Messie doit représenter. Pour eux, le Messie doit régner. Or, quand on parle du Fils de l'homme, quand Jésus annonce à l'avance qu'il doit mourir pour le salut de l'humanité, c'est impossible. Le message de la grâce est inacceptable pour le juif parce que ça enlève ce qu'il a bâti pour atteindre Dieu. Le problème des gens religieux, c'est que la plupart du temps, ils font preuve de beaucoup de zèle, mais le zèle n'est pas éclairé. Les juifs vont persécuter Jésus et l'emmener à la croix. Ils n'ont pas supporté le message de Jésus, le message qui transportait la vie. Ils ont même cru bien faire en crucifiant Jésus. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en allant emmener Jésus à la croix, ils ont finalement accompli, malgré eux, le plan que Dieu avait prévu de toute éternité. Que le Messie porte la condamnation de l'humanité pour ouvrir le chemin vers Dieu, pour restaurer la relation entre Dieu et l'homme. Quand Paul et les autres disciples annoncent la bonne nouvelle, ils annoncent Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et au verset 1. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. La suite. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le message central que Paul annonçait partout et qui était accompagné de signes, de prodiges et de miracles, c'était le message de Jésus-Christ crucifié. Et c'est la raison pour laquelle Paul également a été persécuté, parce que ça venait percuter à nouveau l'enseignement des religieux. Comment un homme qui meurt sur une croix peut-il apporter le salut de l'humanité ? C'est un scandale pour les juifs, c'est pas possible. Comment sa mort peut-elle être une victoire et une libération ? Comment accepter qu'il n'y a rien d'autre à faire pour être sauvé, si ce n'est de croire en Jésus-Christ ? Comment accepter que la mort de Jésus-Christ soit comme une offrande ? Et on l'a chanté ce matin. Il a offert sa vie librement. Au final, on n'a pas pris la vie de Jésus. Jésus l'a offert. Il a offert sa vie pour le salut de l'humanité. Les juifs de l'époque et les religieux d'aujourd'hui ont été scandalisés par ses propos, par ses regards, par ses attitudes, par ses paroles. Et Jésus, en fait, les confrontait dans leur zèle aveugle. Jésus leur envoyait quelque chose qu'ils ne voulaient pas entendre. Pour les juifs de l'époque, il n'était pas possible d'être sauvé sans effort. Mais c'est justement tout le message de la Nouvelle Alliance. Tout dépend de notre foi dans ce fait historique. Le message est donc un scandale pour les juifs, mais nous allons voir également que c'est un non-sens pour les Grecs. On le voit également. Toujours au verset 23 du livre des Corinthiens, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les non-juifs. Pour les Grecs, ce qui est important, c'est de raisonner. Les Grecs sont connus, et encore aujourd'hui, ils sont connus pour avoir élaboré énormément de choses sur plein de sujets différents. On parle d'Aristote, on parle de Platon, on parle de Socrate, qui nous ont légué encore aujourd'hui, énormément de choses. Ils ont développé des philosophies qui servaient de règles de vie pour leurs disciples. Ils étaient très intelligents et ils ont posé les bases de la démocratie moderne. Ça a commencé à l'Antiquité, la démocratie. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Ça remonte à loin. La sagesse qui a irrigué le monde jusqu'à aujourd'hui et qu'on essaye tant bien que mal de préserver. On voit dans le livre des Actes que Paul était confronté à ces philosophes-là. 17, acte 17, verset 16. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu, et chaque jour sur la place publique avec ceux qu'il rencontrait. Hop, et là, si vous avez des bons yeux, bienvenue au test ophtalmique, parce que vous ne pourrez pas le voir, forcément. Mais je vous le lis quand même. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Pour les penseurs et pour les intellectuels, et encore une fois, je ne veux pas faire de l'anti-intellectualisme primaire. Okay ? Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut s'approcher de Dieu et recevoir Dieu avec notre intelligence. Dieu n'est pas contre l'intelligence puisqu'il nous l'a donnée. Oui ou non ? Donc, ce que je suis en train de dire ne veut pas dire qu'il ne faut pas être intelligent. Au contraire, ce que je veux dire, c'est que par l'intelligence, on ne peut pas entrer en relation avec Dieu. Il faut la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Pour les penseurs d'hier et d'aujourd'hui, il faut des certitudes, il faut des preuves, il faut du tangible, il faut un raisonnement. Il faut une démonstration, comme en mathématiques. Vous vous souvenez, quand on met le résultat, puis on a oublié la démonstration, on a la moitié des points, oui ou non ? Ouais, il n'y a pas d'étudiants, ils sont tous là, comme ça. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai, il faut mettre la démonstration pour qu'on puisse voir le chemin qui a été fait pour arriver à la fin de l'équation. Et en fait, pour ceux qui raisonnent et qui ne passent que par leur intelligence, c'est compliqué de s'appuyer sur des croyances. C'est un peu trop incertain. En plus, ce n'est pas visible non plus. Et c'est là qu'on a un problème. Or, la difficulté pour tous les gens qui considèrent que le Messie en croix est un non-sens, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de logique à tout ça. Le sacrifice de Jésus, qui apporte le pardon des péchés, la délivrance des liens, la guérison des maladies, est un non-sens. Comment un homme qui est mort peut-il logiquement apporter la libération des péchés, le pardon des péchés ? Comment peut-il nous restaurer dans une relation avec Dieu le Créateur ? En fait, la raison humaine ne peut pas le comprendre. Parce que ça défie toute logique humaine. Pourquoi ? On le voit au verset 19. Au verset 19 de 1 Corinthiens 1, il est dit, du reste, il est écrit « Je ferai disparaître la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Et ce que l'on voit au chapitre 2 de l'épître de Corinthiens, au verset 14, et j'ai mis une autre version, c'est la version parole vivante, « L'homme qui n'a que ses facultés naturelles, n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons, n'admet pas ses vérités spirituelles. Elles sont, à ses yeux, pure folie. Et il est incapable de les comprendre. Annoncer le Messie crucifié ne rentre dans aucune case logique, aucun concept philosophique. Croire en un homme crucifié est contraire à la logique. S'approcher de Dieu avec son intelligence, c'est essayer de faire entrer Dieu dans un concept. Et on aime bien les concepts, c'est génial, c'est facile à comprendre. Une fois, je lisais une histoire pour les enfants, et puis ils disaient, non mais les adultes, ils aiment bien les idées toutes faites. Parce que l'avantage des idées toutes faites, c'est qu'il n'y a pas besoin de réfléchir. Ah, c'est pas faux quand même. On aime bien nous mettre les choses, on classe les gens. On crée des catégories socio-professionnelles. Il y a les ouvriers, puis on les enferme dedans. Il y a les employés, puis on les enferme dedans. Les cadres, etc., etc. On aime bien, on veut comprendre le monde. Et pour le comprendre, comme c'est trop compliqué, on fait des concepts. Et on essaye de réfléchir. Et je ne dis pas que c'est totalement absurde, ça aide à comprendre. Mais Dieu, on ne peut pas le comprendre comme ça. Dieu n'est pas un concept. Dieu est une personne. Et Dieu ne peut pas s'appréhender via une formule mathématique ou via un concept. Pour les Grecs, leur instruction et leur sagesse les empêchent de voir Dieu et encore plus de comprendre la croix. Pour le juif, le religieux qui veut montrer le salut par ses œuvres, comme pour le grec, le sage instruit qui veut comprendre Dieu avec sa raison, la prédication de la croix est un non-sens. Je reviens au verset 23 parce que c'est très important. Nous prêchons un Messie crucifié, c'est-à-dire le libérateur du peuple d'Israël, crucifié. Scandale pour les juifs. Folie pour les non-juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. Et c'est là qu'on voit dans ce que Paul nous dit, que le message de l'évangile est pour tous. On va y revenir tout à l'heure. Et on arrive au troisième point. On a parlé du scandale que représente le message de Christ crucifié pour les juifs. On a parlé également de la folie pour toutes celles et tous ceux qui considèrent qu'il faut s'approcher de Dieu par des raisonnements. Mais pour celles et ceux qui croient, qui placent leur foi en Jésus, ce message est la puissance même de Dieu. Si le Fils de Dieu a accepté de donner sa vie pour sauver le monde, ce n'est pas pour rien. La mission de Jésus, c'était d'offrir à l'homme un moyen d'être réconcilié avec Dieu. Derrière l'œuvre visible de Jésus, derrière le sacrifice, il y a une signification plus profonde qui constitue une puissance pour toutes celles et tous ceux qui croient en lui. La mort de Jésus, c'est bien plus que la mort d'un simple innocent sur une croix. Ça va bien plus loin que ça. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse l'examiner ensemble. Si on regarde à vue humaine le visible, il est né dans une crèche à Bethléem, il est mort à Golgotha. Point. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Mais en réalité, de toute éternité, Dieu avait prévu que son Fils viendrait sur la croix, qu'il passerait par la mort. Mais on l'a entendu ce matin, il n'est pas resté dans le tombeau. La mort n'a pu le retenir. Il est ressuscité. Amen. Il y a une partie invisible avant qu'il arrive à Bethléem. Il y a une partie invisible après, quand il est monté au ciel. Mais en fait, en réalité, d'un point de vue spirituel, l'œuvre de Jésus et le ministère où il est resté quelques années sur la terre n'est qu'une partie visible d'une dimension et d'un plan spirituel qui avait pour but le rachat de l'humanité. La mort de Jésus sur la croix n'est pas la fin d'un idéal pour les quelques fanatiques qui croyaient en lui. La mort de Jésus sur la croix, c'est le point de départ d'une nouvelle relation entre Dieu et l'homme. C'est l'acte par lequel nos transgressions sont effacées. C'est la justice de Dieu qui se manifeste et qui s'étend à l'humanité tout entière. La croix, c'est le lieu où Christ meurt pour les péchés de l'humanité et où il règle son compte avec le péché en lui enlevant sa puissance sur l'homme. La croix, c'est le lieu de la guérison. C'est le lieu de la guérison de toutes nos maladies. C'est le lieu de la repentance, le début d'une vie nouvelle basée sur une relation avec Dieu où le péché n'intervient plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que depuis qu'Adam et Ève ont péché, il y a entre Dieu et l'homme le péché qui l'empêche d'être en relation directe avec lui. Grâce au sacrifice de Jésus, il y a une restauration qui a lieu. Et on peut de nouveau être en contact direct avec Dieu, parce que Dieu ne nous considère plus comme pécheurs. À partir du moment où on s'approche de Jésus, on se repent de nos péchés et on lui fait confiance. Dieu ne nous considère plus comme pécheurs, mais il nous voit au travers du sang de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. C'est le lieu de la délivrance de la race humaine de l'emprise du péché. En Adam, l'humanité tout entière est prisonnière, déchue, privée de la grâce, privée d'une relation vivante et vivifiante avec Dieu. Mais en Jésus-Christ, cette relation est restaurée parce que le péché est condamné et il ne s'interpose plus entre Dieu et l'homme. La croix, c'est le lieu où on obtient une grâce imméritée. Et c'est pour ça que c'est un scandale pour les juifs et pour tous les religieux. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire si ce n'est d'accepter cette grâce comme un cadeau et de croire en Jésus-Christ. Lorsque Paul est à Corinthe, il avait décidé, et on l'a lu tout à l'heure, de ne centrer sa prédication que sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et on le voit au chapitre 2 et au verset 2, « J'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Amen. La puissance du Saint-Esprit accompagnait les apôtres, les disciples, alors qu'ils annonçaient Jésus-Christ crucifié. Il annonçait le mystère caché de tous les temps, que Dieu a révélé à ses apôtres pour le salut de tous. Pour ceux qui ne comprennent pas le message, c'est un scandale ou une folie. Mais pour ceux qui comprennent ce que Jésus a fait, la croix, c'est le lieu où nos péchés sont effacés. On le lit dans Colossiens 2, au verset 14. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations, les autorités, et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix nous libère du fardeau, du poids, du péché. Éphésiens 2, au verset 15, il nous dit « Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. » Jésus nous a libérés par son sacrifice. Et c'est là que je disais tout à l'heure que c'est bien plus que la simple mort d'un innocent sur la croix. Il y a une portée spirituelle, il y a la libération de nos péchés, il y a la libération de la puissance du péché dans nos vies, il y a la libération de l'autorité du prince de ce monde, puisqu'à partir du sacrifice de Jésus, pour toutes celles et tous ceux qui croient en lui, nous sommes transférés dans le royaume de Dieu. Amen. On change de camp complètement. On passe du camp des ténèbres au camp de la lumière. Tout ça comment ? Par le sacrifice de Jésus, en croyant dans l'œuvre expiatoire de Jésus. Ce qui fait que, quand on change de camp, on change de maillot. Si on a fait du foot il n'y a pas très longtemps. Okay, si vous changez pas de maillot, mais que vous changez de camp, il y a un petit problème. Là, on a changé de camp. On est passé maintenant dans le camp de Jésus-Christ, dont on sait qu'il obtiendra la victoire et qu'il triomphe toujours. Amen. Grâce à la croix, nous sommes délivrés de nos infirmités. Amen. Oui ou non ? Oui. Ouais, on est pardonné de nos péchés, mais pour les maladies, c'est plus compliqué. Excusez-moi, ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est qu'à la croix, Christ a pris nos meurtrissures. Oui ou non ? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Tout ça, c'est la dimension spirituelle de l'œuvre de la croix. Il y a une vision, il y a la partie visible et la partie invisible. Jésus a rendu accessibles les trésors de grâce que le Père avait en réserve pour celles et ceux qui sont appelés. À la croix, Jésus nous a libérés de tout lien. Et on le voit dans Romains 8, au verset 2. On cite souvent le verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen, et c'est vrai. La suite est extrêmement intéressante. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est-à-dire que quand on était dans le camp de l'ennemi, il y avait une loi du péché et de la mort qui agissait en nous. Mais à partir du moment où on change de camp, c'est une autre loi bien plus puissante qui agit à l'intérieur de nous. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ. Amen. C'est l'équivalent, et c'est une image que j'aime beaucoup, c'est l'équivalent de deux lois naturelles, la loi de la gravité et la loi de la sustentation. Je ne suis pas un grand expert en sciences, okay, mais j'ai compris ça. La loi de la gravité, elle vous amène vers le sol, mais la loi de la sustentation, c'est celle qui permet aux avions de voler. On a exactement la même chose ici. La loi du péché et de la mort, c'est comme la loi de la gravité, elle vous attire vers le bas et vers la mort. La loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, c'est comme cette loi de la sustentation qui vous emmène vers le haut. Qu'est-ce qu'on lit dans Ésaïe 53 ? On connaît bien ce texte-là au verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix ? Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes Je le refais. C'est par ses blessures que nous sommes. Amen. C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est pas moi qui le dis, hein, d'accord ? Ça, c'est Ésaïe au chapitre 53. C'est dit avant, bien avant que Jésus-Christ soit venu. Ça a été écrit plusieurs centaines d'années avant que Jésus-Christ vienne. Ça a annoncé de manière prophétique l'œuvre de Jésus et la portée spirituelle de la croix. Par ses meurtrissures, nous sommes... Je termine. Le choix est devant toi ce matin. Et c'est extrêmement important. La croix est pour les uns une folie, pour les autres un scandale. Mais pour ceux qui choisissent de croire, c'est une œuvre de libération, c'est une œuvre de restauration et c'est une œuvre d'abondance. Amen. La croix est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la vie de toutes celles et tous ceux qui croient. On peut choisir de rester sceptique. On peut se dire, ok, c'est bien. Bravo. On peut aussi considérer que ça n'a aucune importance. Mais quand même, on ne peut pas nier qu'au travers de la croix, il se passe toujours quelque chose. Quand on vient à la croix, quand on accepte de recevoir le message de Jésus-Christ, quand on accepte de croire dans le Fils unique de Dieu, il se passe quelque chose. Il y a la partie visible et il y a la partie invisible. Et la partie invisible, elle se passe dans les cœurs. C'est ce qu'on appelle, et c'est ce qui peut arriver, la nouvelle naissance. Tu nais de nouveau, c'est un demi-tour, tu changes de camp complètement. C'est un mystère. Et c'est le Saint-Esprit qui œuvre à l'intérieur. Dans le livre des Nombres, au chapitre 21 et au verset 7, il nous est dit que il nous est parlé d'une expérience que le peuple d'Israël a vécue, encore une fois, bien bien longtemps avant que Jésus ne vienne. Le peuple d'Israël était dans le désert et il s'est mis à se plaindre de son sort et il s'est mis à contester avec Dieu. Alors, Dieu a envoyé des serpents venimeux et puis plusieurs sont morts. Et à un moment donné, ils ont crié à Dieu et Dieu est intervenu. Et on va le lire. Le peuple vint trouver Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple et l'Éternel lui dit « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le gardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent avait la vie sauve. Et cet épisode-là, Jésus nous en parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 14. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a une analogie entre ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Il suffisait juste de regarder au serpent qui était suspendu au bois. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il suffit juste de regarder à ce que Jésus a fait, à son corps qui a été cloué sur une croix, d'accepter ce sacrifice qui vient couvrir tous nos péchés, de façon à pouvoir recevoir et pouvoir, à un moment donné, avoir une relation restaurée avec Dieu. Depuis le sacrifice de Jésus, et Chloé en a parlé ce matin, le voile du temple qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'être à nouveau en contact avec Dieu. Contact direct, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, c'est la porte. Aujourd'hui, tu peux être en relation directe avec Dieu le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus l'a appelé son Père et nous a invités aussi à l'appeler notre Père. La croix, c'est en réalité le point de départ d'une vie nouvelle avec Dieu. Ce n'est pas la fin. La croix, la mort de Jésus sur une croix, c'est le point de départ. C'est un appel qui résonne ce matin et qui nous rappelle, et peut-être ça fait très longtemps que tu as entendu ce message et tu l'as classé, message évangélisation. Direct, hop, c'est classé. Mais en réalité, Saint-Esprit t'interpelle ce matin et veut te parler parce que à la croix, il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Visiblement, tu penses que c'est pas grand-chose, c'est la mort d'un innocent. Mais on a parlé ce matin de la dimension spirituelle qu'il y avait derrière ce fait-là. Et en réalité, c'est la même chose pour toi. Ce matin, tu peux accepter Jésus-Christ dans ta vie et ta vie peut être transformée. Alors, en apparence, tu garderas toujours la même coupe de cheveux. Mais en réalité, à l'intérieur, il va se passer quelque chose de nouveau. En réalité, à l'intérieur, ta vie va être transformée, totalement métamorphosée. À partir du moment où tu crois dans l'œuvre de la croix, il y a la puissance de Dieu qui agit dans ta vie et qui est capable de t'emmener dans une nouvelle dimension, une relation restaurée où la paix règne, la joie règne, où l'amour de Dieu règne également. On l'a entendu. Le sacrifice de Jésus est le point de départ. Sans mort, il n'y a pas de résurrection. Jésus est allé jusqu'au bout, mais la Bible nous dit qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité, toi aussi, tu peux ressusciter. Toi aussi, tu peux recevoir la guérison de tes maladies. On l'a lu dans la parole de Dieu. Jésus guérit encore aujourd'hui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes. Amen. Et je pense que bien souvent, on accepte le message de la croix pour le pardon de nos péchés, mais on a du mal à le saisir pour la guérison de nos maladies. Mais c'est écrit. Et si c'est écrit, alors on doit pouvoir le vivre. Je vous invite à courber vos fronts et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, ta parole est vraie. Et je crois au ministère du Saint-Esprit qui œuvre dans les cœurs maintenant. Je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin dans les cœurs et qu'il rappelle aux uns la puissance de la croix, qu'il interpelle les autres sur ce que signifie ce fait historique. Mais il est impossible de rester insensible quand on entend le message de l'Évangile. Je te prie pour celles et ceux qui résistent, Seigneur, ce matin et qui refusent de croire ou qui n'ont pas assez de foi pour croire dans ce que tu as dit. Seigneur, viens leur en aide, s'il te plaît. Père très saint, tu connais les cœurs. Par ton esprit, tu œuvres dans les cœurs ce matin. Tu opères dans l'invisible et tu agis, tu interpelles. Saint-Esprit, fais ton œuvre, s'il te plaît. Je veux proclamer que des vies sont délivrées ce matin. Je veux proclamer que des maladies sont guéries au nom de Jésus-Christ. Je veux proclamer que le sang de Jésus est efficace pour effacer tous les péchés. Peut-être tu te dis ce matin, mais moi je ne peux pas, tout ce que j'ai fait c'est impossible. C'est pas vrai. Le sang de Jésus est efficace pour effacer tous les péchés, tous les mensonges, toutes les pensées secrètes, toutes les paroles que tu as pu dire. Le sang de Jésus est efficace aujourd'hui et il efface tes péchés. Le sang de Jésus est également efficace pour te purifier, pour te guérir. Quand la femme à la perte de sang s'est approchée de Jésus, elle a juste touché le bord de son vêtement et elle a été instantanément guérie. Ce matin, si tu t'approches de Jésus, si tu penches ton cœur vers Jésus, si tu réalises ce qu'il a fait à la croix, tu peux recevoir la vie en abondance. Le Saint-Esprit peut toucher ton cœur ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu œuvres ce matin. Je te prie pour les conséquences de ce message, ô Dieu, afin que ta parole qui a été semée dans les cœurs puisse porter du fruit. Je te prie de garder cette parole, ô Éternel, afin que l'ennemi ne puisse pas la prendre, mais que cette parole puisse s'enraciner dans les cœurs et qu'elle produise du fruit. À la croix, Seigneur, tu as tout accompli. Et tu l'as toi-même dit, tout est accompli. Nous avons tout pleinement en toi. Nous avons ce dont nous avons besoin, un secours inébranlable. Seigneur, merci pour ta présence. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.